France Inter.
Citoyens et citoyennes,
camarades,
compagnons,
travailleuses, travailleurs,
françaises, français.
Et tous les autres, bienvenue dans Enquête de politique. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h.
Enquête de politique. Thomas Legrand sur France Inter.
Et ce soir, nous explorons l'histoire, les contours et l'avenir du mutualisme. Cette idée apparue au XIXe siècle, en même temps que la révolution industrielle. Une idée née d'abord d'une nécessité, celle de l'entraide, de l'assurance communautaire, autogérée pour affronter les accidents du travail, la maladie, le chômage, le décès, alors que le monde ouvrier commençait à être pressurisé, harassé de travail pénible et sans beaucoup de droits et de repos.
Compagnons, nous sommes ici pour parler de notre frère Chambon. Il est hors de danger.
Ah !
Il vivra. Mais ce qui est moins gai, c'est qu'il en a pour des semaines à rester sans travailler. Chambon va subir la plus grande misère de l'homme. Il ne pourra plus nourrir sa famille.
Ah.
Seul, aucun de nous ne peut rien. Ensemble, nous pouvons beaucoup. Il faut se grouper pour aider Chambon tout de suite et rester unis pour soutenir demain les compagnons accidentés ou malades.
C'est défendu de se grouper. Ceux qui se groupent, on les met en prison.
Oh, le Marseillais. Les groupements politiques sont interdits, mais par l'entraide.
Il a raison, Delorme.
C'est pas défendu, l'entraide.
Qu'est-ce qu'ils peuvent dire?
Rien du tout. Bravo, Delorme.
La loi vous autorise parfaitement à fonder une société de secours mutuel. Dans son code, Napoléon avait tout prévu.
Nous allons créer notre société de secours mutuel par cotisation. Et pour commencer, compagnons, main à la poche. Chacun selon ses moyens.
Vous aviez oublié de m'inviter, Delorme.
Oh, monsieur l'ingénieur.
Votre initiative est charitable, certes. Elle est aussi courageuse. Permettez-moi d'y participer.
Voilà, c'est un extrait d'une série de 1967 pour l'ORTF et ça s'intitulait « La princesse du rail », l'histoire donc, vous l'aurez compris, d'un cheminot accidenté à la fin du 19e siècle et à la naissance du mutualisme concret. Les groupements politiques professionnels sont interdits, mais pas l'entraide bien sûr. Le concept du mutualisme a d'abord été théorisé par deux hommes bien différents, Frédéric Guillaume Raiffeisen, né en 1818, mort en 1888, chrétien, militaire prussien, puis haut fonctionnaire en Rhénanie, et Pierre-Joseph Proudhon, anarchiste français et auteur de la célèbre formule « La propriété, c'est le vol ». Il y a eu ensuite le radical Léon Bourgeois, et ses idées dites solidaristes, mais le mutualisme a été mis en œuvre dans une part importante de l'économie, l'assurance avant tout, après la Seconde Guerre mondiale. Le mutualisme, c'est les mutuelles du Mans, la GMF, MMA, Groupama, la Massif, la Maif, les filiales du Crédit Agricole, le Crédit Mutuel, il y a aussi le commerce avec par exemple les coopératives U, une bonne part de l'activité agricole française structurée en coopérative. On peut y ajouter tout le secteur associatif, l'économie sociale et solidaire, les entreprises dites à mission, toutes ces entreprises qui fonctionnent hors des services publics et du champ purement privé ou capitalistique. On considère que ce domaine de l'économie représente entre 11 et 14% du PIB français. Et il se pourrait que l'idée mutualiste, qui semble comme ça un peu une idée sépia, plan-plan, soit en réalité un modèle taillé pour l'avenir, une solution pour sortir du tout capitalisme vorace et être, pourquoi pas, le cadre adéquat pour une économie et même une société résiliente alors que nous affrontons les dérèglements climatiques qui vont impliquer de grands bouleversements dans notre façon de produire et de consommer. Bouleversements subis ou choisis, on va tenter de faire le tour du mutualisme jusqu'à 19h, cette notion passionnante et qui peut proposer des perspectives. Et en ce moment, ça ne fait pas de mal de proposer des perspectives. Et pour ça, nous sommes avec trois invités. Nicolas Théry, président des deux fondations du Crédit Mutuel. Nicolas Théry a présidé le Crédit Mutuel. Il a passé 7 ans à la Commission européenne, notamment à la direction du cabinet du commissaire pour le commerce international et à la Direction générale de l'environnement. Auparavant, il a travaillé à la CFDT avec Nicole Notta et puis 11 ans à Bercy, sous les ministres Strauss-Kahn, Fabius et Florence Parly. Un CV long comme le bras. Bonsoir Nicolas Théry.
Bonsoir Thomas Legrand.
Et vous êtes l'auteur de « Pour une société plus mutuelle, sortir de l'ultralibéralisme » avec Daniel Ball, qui est votre successeur au Crédit Mutuel, à la tête du Crédit Mutuel. Et c'est aux éditions de l'Aube. Nous sommes aussi avec David Jaïs, que les auditeurs de France Inter connaissent bien, essayiste, ancien haut fonctionnaire et maintenant dirigeant d'un cabinet de conseil qui travaille notamment dans le domaine mutualiste. Bonsoir David Jaïs.
Bonsoir Thomas.
Et vous avez écrit « La révolution obligée, réussir la transformation écologique sans dépendre de la Chine et des États-Unis, avec Xavier Desjardins. Et vous avez écrit tout seul, le nouveau modèle français, c'est de livres aux éditions Alary. Enfin, nous sommes avec Christian Oyarbi, président de Mutlog. C'est une mutuelle de prévoyance des emprunteurs dans le domaine du logement. Bonsoir Christian Oyarbi.
Bonsoir Thomas Legrand.
Et vous avez écrit « Réinventer le mutualisme » aux éditions Les Petits Matins. Vous êtes co-auteur aussi des 20 propositions pour refonder le mutualisme aux éditions toujours des Petits Matins. Alors je vais vous demander chacun d'abord une définition du mutualisme. C'est vrai que c'est un terme, quand on dit « je vais faire une émission sur le mutualisme », on sent pas comme ça un grand enthousiasme, c'est un terme qui est un peu vieillot. Alors, Nicolas Théry, qu'est-ce que le mutualisme ?
Pour moi, à l'origine, c'est l'ambition d'une communauté solidaire fondée, comme vous l'avez très bien dit, sur le service collectif et la démocratie. Et aujourd'hui, je dirais, c'est un outil capable de répondre à des grands besoins collectifs, notamment l'écologie et l'inclusion sociale. Donc finalement, une révolution du 19e qui peut redevenir révolutionnaire au 21e siècle.
Christian Oyarbi, pour vous,
Moi, je reprendrai, si vous permettez, la phrase de Jean Kelevitch qui disait que les raisons de vivre sont plus importantes que la vie elle-même et les raisons d'être mutualiste sont finalement plus importantes que le mutualisme lui-même. Et parmi les trois raisons que j'ai citées, je vais prendre les trois valeurs qui sont statutairement incontournables pour la famille mutualiste dans laquelle je suis immergé, parce que les familles sont un peu différentes, il y a des histoires différentes. Il y en a une que vous n'avez pas citée dans votre liste, c'est toutes les mutuelles santé. Vous n'en avez cité aucune dans la présentation, ce qui prouve que, et pourtant...
Les complémentaires santé,
oui, mutualistes, hein, parce qu'elles ne sont pas toutes... Mais dans cette famille-là, dans nos statuts, il y a trois choses qui sont prescrites par nos codes, mais qui sont aussi des devoirs moraux, qui sont la solidarité, la démocratie et la non-lucrativité. Ces trois choses, ces trois valeurs, entre, moi je les appelle des valeurs hein, dans mon bouquin, c'est des valeurs que j'appelle insécables, c'est-à-dire, c'est pas qui ne saute pas n'est pas parisien, mais c'est qui n'est pas démocratique tout en étant solidaire et non-lucratif n'est pas mutualiste. Voilà, et réciproquement. Et ces trois valeurs, elles nous obligent dans notre monde d'aujourd'hui un peu différemment de la façon dont on exerçait nos métiers d'hier, puisque comme le disait Nicolas Théry, on était dans des modèles où c'était des gens qui se réunissaient pour faire solidarité. Or, aujourd'hui, la plupart de nos adhérents, ils nous sont quand même imposés par des contraintes de marché, par des contraintes réglementaires ou par des appels d'offres, comme c'est le cas pour les mutuelles santé, aujourd'hui, par exemple, de la fonction publique, où l'adhérent choisit plus sa mutuelle.
Alors, David Jayes, on a l'impression que le mutualisme ou le solidarisme, on va parler peut-être un peu plus tard avec Léon Bourgeois du solidarisme, mais le mutualisme est une sorte de troisième voie. Le terme troisième voie a été utilisé pour beaucoup de ismes, mais une sorte de troisième voie d'alternative au capitalisme tout libéral, ou libéralisme tout capitaliste plutôt, et puis à la fonction publique, à l'étatisme. Est-ce que ça peut être défini comme ça?
Oui, entre le tout-État et le tout-marché, il existe une troisième voie qui est l'organisation de l'entraide à l'échelle de la société. Pour bien comprendre le mutualisme, il faut quand même l'ancrer dans son contexte historique.
Alors, l'histoire.
C'est une invention du 19e siècle. Vous savez, la Révolution française, c'est évidemment la promesse démocratique et la promesse d'égalité, mais c'est aussi la dissolution de toutes les solidarités anciennes. La loi Le Chapelier, par exemple, elle abolit les corporations, qui étaient vues comme réactionnaires et comme symboles de l'Ancien Régime. Mais le problème, c'est qu'en abolissant les corporations, on abolit aussi des formes de solidarité.
Oui, on tombe dans l'individualisme.
Traditionnel, on tombe dans une forme d'individualisme. Et d'ailleurs, au 19e siècle, les inégalités explosent à cause de ça, parce que les individus sont un peu des atomes qui sont en libre circulation dans la société, et ceux qui ont accès à l'information ou qui ont plus de moyens, bien, ils accumulent de gigantesques fortunes.
Parce que la loi Le Chapelier, finalement, c'est pour mettre fin à des espèces de petites monarchies par métier.
C'est-à-dire qu'il y a
des hiérarchies, des corporations, le corporatisme à l'ancienne.
Exactement. Et donc le mutualisme, c'est une réponse dans le contexte de la révolution industrielle qui organise l'entraide pour ceux qui, en quelque sorte, n'ont accès ni aux faveurs de l'État, ni aux faveurs du capital.
Alors, une entraide plutôt horizontale et non pas verticale.
Exactement.
Comme les corporations d'avant.
Je vais vous donner juste un exemple. Vous savez, la banque et l'assurance, puisqu'il va être question de banque et d'assurance peut-être aujourd'hui, au 19e siècle, c'est un truc d'ultra-riche. C'est vraiment pour le top 1% l'accès à la banque. On n'est pas bancarisé quand
non.
On est un commerçant, un petit entrepreneur.
Et donc, il
y a des réseaux de petits entrepreneurs, notamment dans l'ouest de la France, souvent d'inspiration chrétienne, qui disent, on va s'organiser collectivement, chacun va en quelque sorte payer son écho pour pouvoir se bancariser. C'est la naissance notamment des banques populaires, mais le Crédit Mutuel de l'autre côté de la France va faire à peu près la même chose. Et c'est une forme de troisième voie, effectivement, entre un capitalisme qui est vraiment, à cette époque, réservé aux ultra-riches, et un État qui est, je vous le rappelle, sous la Troisième République, littéralement non interventionniste dans l'économie. La règle absolue, c'est le laisser-faire, laisser-aller.
Nicolas Théry, vous citez dans votre livre les deux initiateurs que j'ai cités tout à l'heure, donc un Prussien chrétien plutôt conservateur, et puis Proudhon, un anarchiste. Ces deux inspirations-là se rejoignent pour faire le mutualisme.
Oui, et pour faire communauté. Et je pense, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire David, c'est qu'au fond, le diagnostic social, parce qu'il faut partir d'un diagnostic social pour réfléchir au mutualisme, eh bien, celui du 19e et celui d'aujourd'hui sont très proches, parce que finalement, l'espèce d'individualisation excessive, l'accumulation d'inégalités, la perte de sens, l'enjeu écologique aujourd'hui, eh bien, dicte un besoin. Et finalement, pour moi, le mutualisme, c'est pas une troisième voie. C'est une forme d'un capitalisme long terme, efficace, solidaire. Et vous voyez, finalement, je pensais à Delors au niveau européen qui disait c'est la compétition qui stimule, la coopération qui renforce et la solidarité qui unit. Et ce qui est assez curieux dans le débat économique, et je pense que le débat politique a oublié l'économie, c'est qu'on n'est qu'à la concurrence qui stimule. Ok, ouais. Donc toutes les inconvénients, les inégalités, les pertes d'efficacité, l'individualisation excessive ont disparu en chemin. Et je pense que le mutualisme et la coopération qui renforce, c'est une avant-garde. Et on peut être l'avant-garde d'un capitalisme rénové.
Alors, dans la deuxième partie de l'émission, on va voir ce que le mutualisme peut contenir comme promesse pour l'avenir. Christian Heuerbitte, vous vouliez intervenir.
Moi, je partagerais pas tout à fait. Je partage l'idée que ça ne serait pas une troisième voie, mais pas au nom d'un capitalisme ou d'une utilité rénovée, mais au nom d'une vision de la société rénovée. Par exemple, la question démocratique et la question solidaire, comme l'a dit Nicolas Théry, c'est des questions fondamentales. C'est des questions que porte le mutualisme. Et on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, ça ne soit pas des sujets pour nos sociétés. Donc, si dans nos organisations, on a un devoir d'agir selon ces valeurs, on a aussi un devoir d'exemplarité pour montrer que nous sommes capables de faire vivre ces deux valeurs dans des mondes concurrentiels et capitalistes, non pas pour réformer le capitalisme, mais pour montrer qu'on peut agir autrement et qu'on retrouve des espaces de liberté dans la discussion et que le thatchérisme, il n'y a pas d'alternative, n'est pas fatal.
Mutualisme n'est pas un isme au sens où c'est une nouvelle idéologie ou une idéologie, c'est une méthode qui s'insère dans le capitalisme...
Ah non, qui surplombe, à mon avis.
Qui le surplombe, voilà.
Qui le surplombe et qui...
Qui le ronge de l'intérieur, peut-être, pour le
mieux. L'idée, ça serait qu'il le ronge de l'intérieur et en surplombe, mais au nom de ces valeurs-là, pas au nom de son isme à lui, quoi, mais au nom de la démocratie et de la solidarité.
France Inter, enquête de politique. Thomas Legrand.
On reste quand même, on va revenir tout à l'heure sur l'avenir du mutualisme, mais on reste quand même dans l'histoire et je voudrais que vous nous parliez de ce personnage, Léon Bourgeois, David Jaiz. Je sais que vous admirez beaucoup ce radical du 19e siècle, Léon Bourgeois, qui était un personnage un peu oublié aujourd'hui, mais qui a été un personnage très important.
C'est un personnage majeur de la Troisième République. Je crois qu'il a été un peu oublié parce que toute l'école solidariste du Parti Radical et de la Troisième République a été un peu éclipsé par des alcools forts comme le marxisme, malheureusement. Alors que c'est au fond plus intéressant et que ça va revenir, je crois, comme une pensée politique essentielle. Léon Bourgeois, c'est une personnalité très intéressante. Il a été président du Conseil, il a été président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, il a eu le prix Nobel de la paix.
C'est le seul qui a été président des deux chambres.
Exactement, et président du Conseil, et il a eu le prix Nobel de la paix pour ses réflexions sur la société des nations. Et finalement, il est inspiré par toute l'école de sociologie. C'est le début aussi de la fabrication des politiques publiques à l'aune des sciences sociales. Il appartient à cette école de pensée. Vous avez Émile Durkheim, qui est quand même l'un des fondateurs de la sociologie moderne. Vous avez Alfred Fouillet. Alors, c'est des gens qui sont un petit peu oubliés aujourd'hui, mais qui ont joué un rôle majeur dans la pensée politique de la Troisième République. Et en fait, il considère qu'il existe une troisième voie, pardon de revenir, moi je tiens à cette expression de troisième voie, entre, au fond, le libéralisme à tout craint, qui considère qu'il n'y a que des individus qui sont mus par leur trajectoire personnelle et qu'au fond, si c'est le fameux « enrichissez-vous », hein, oui, par Guizot. Le travail et par l'épargne qui était promu par la monarchie de Juillet et qui ensuite a été prolongé par le Second Empire. Et puis de l'autre côté, les socialistes tendance marxiste qui considèrent finalement qu'il n'y a que des forces collectives, des classes sociales qui s'affrontent dans la société et que seule la révolution permettra de faire avancer l'histoire. Et lui, il dit non, il y a des individus qui ont une liberté, mais ces individus, ils naissent dans un contexte social, ils naissent dans ce qu'il appelle un quasi-contrat. C'est-à-dire que quand vous venez au monde en France, vous avez la chance de naître dans une société où il y a une école publique, il y a un hôpital public, où il y a des progrès techniques qui ont été réalisés, et donc, d'une certaine manière, vous avez une dette vis-à-vis de cette société qui vous a vu naître, et cette dette, vous allez la repayer par l'impôt, mais aussi en vous organisant dans des sociétés de secours mutuel et Bourgeois a accompagné par son œuvre législative la naissance d'un certain nombre de sociétés de secours ouvrières notamment.
Oui, et donc le mutualisme et le solidarisme de Léon Bourgeois tel que vous le décrivez s'insère vraiment dans la République, dans l'idée de la République. Alors, on n'a pas la voix de Léon Bourgeois sur le mutualisme, hein. On a la voix de Léon Bourgeois et on l'a passé d'ailleurs un enregistrement très ancien sur le pacifisme dans notre émission consacrée au pacifisme. Vous avez rappelé que c'est un des créateurs de la Société des Nations. Mais voilà comment Émile Roche, qui fut un des présidents du Conseil économique et social, rendait hommage à Léon Bourgeois en le citant. C'était en 1952, donc Léon Bourgeois par Émile Roche.
Je ne crois pas que le bien de la nation puisse se réaliser définitivement par la lutte des individus et des classes, pas plus que le bien de l'humanité par la lutte des nations. Je n'admets pas la prétendue liberté de l'exploitation de l'homme par l'homme, un régime de liberté absolue de la concurrence qui permettrait indirectement à la pression financière d'abuser de sa force. L'homme n'est vraiment libre qu'après avoir payé sa dette à l'homme. La nation ne jouira de la paix que qu'elle aura créé un ensemble complet d'assurances qui garantira tout individu contre les risques de la maladie, du chômage, des invalidités, de la vieillesse. Tout notre système de sécurité sociale se trouve inclus dans ce programme. Et l'on doit rendre hommage à Léon Bourgeois d'avoir été son promoteur.
Alors, nous sommes toujours avec Nicolas Théry, Christian Oyarbide et David Jaïs. Et nous nous interrogeons jusqu'à 19h sur le mutualisme. Nicolas Théry, je vous voyais sourire d'aise pendant cette définition du mutualisme par Léon Bourgeois et dans la voix d'Émile Roche.
Oui, j'ai trouvé que c'était touchant parce que c'est au fond très moderne et on ressent une chose qu'on oublie trop souvent, c'est la dimension à la fois démocratique et d'émancipation. Et je trouve que nous viennent de ces enregistrements anciens cette voix de dire « mais n'oubliez pas ». Qu'il peut y avoir de l'entraide, il peut y avoir des services collectifs, mais il y a une ambition derrière qui est une ambition de communauté, de vie sociale, de démocratie et d'émancipation. Et je pense que cette idée que chaque individu...
C'est là que c'est très républicain.
Et oui, peut trouver son avenir, le construire par des garanties collectives. Alors au début, très basique, hein, l'assurance, la banque, le droit au compte, la couverture santé, mais qu'au fond, il y a l'idée de faire société derrière. Et je pense que cette question-là, et avec la voix un peu chevrotante qu'on a entendue, elle est toujours valable.
Alors, le Conseil national de la Résistance, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, a un peu consacré cette idée du mutualisme, avec d'autres mots peut-être, mais l'idée de l'État-providence qui naît dans les esprits, c'est pas tout à fait ça. Je vois que vous faites, Christian Oyarbide et David Jaïs, c'est pas tout à fait ça. Alors, CNR n'a pas consacré le mutualisme.
Il y a eu deux vagues de modernisation démocratique en France. Il y a la Troisième République, où effectivement le mutualisme vraiment s'est enraciné. Et puis ensuite,
la charte de 1888.
Exactement. Et puis ensuite, il y a le Conseil national de la Résistance et la modernisation d'après-guerre. Le mutualisme, à ce moment-là, aurait pu disparaître, parce que les décisions qui sont prises après 1945, c'est de dire, au fond, on va généraliser à toute la société française un certain nombre de protections qui étaient assurées, naguère, par des caisses d'assurance mutuelle. L'assurance maladie, par exemple, remplace les caisses de secours ou de solidarité à l'intérieur des corporations ou des métiers. Et ce qui est intéressant, c'est que le mutualisme s'est légèrement déplacé. Donc, vous parliez tout à l'heure de la complémentaire santé.
Ce qui peut y avoir de commun, c'est peut-être la raison de mon erreur, c'est le côté troisième voie entre capitalisme un peu sauvage et socialisme ou étatisme. Il y a la recherche, peut-être avec plus d'étatisme là, mais il y a la recherche quand même, avec la sécurité sociale, de donner aux partenaires sociaux aussi un rôle important.
Oui, c'est la même inspiration au départ, mais on confie
c'est pas la même mécanique
à un opérateur qui est la puissance publique, ouais, le soin de brasser ces grandes masses d'argent.
Christian Verbid.
Je voudrais juste, Pierre Larocque, qui était un haut fonctionnaire et qui a théorisé le système de sécurité sociale, avant il l'avait dit avant-guerre, et qui a inspiré le Conseil national de la Résistance, et qui a été un des conseillers des ministres communistes à l'époque qui avait porté, et il avait dit qu'il fallait confier la gestion de ces régimes, hein, de tous ces outils, aux acteurs, aux bénéficiaires et aux financeurs. Il n'avait pas dit... Bien sûr, c'est organisé par la puissance publique, mais il avait dit, pour éviter que ça devienne, je vais avec les mots d'aujourd'hui, technocratique, il faut le confier aux acteurs. C'est ce qu'on a oublié, qu'on a perdu. On a perdu cette dimension, je dirais, d'élan collectif, de réunion des acteurs autour des objectifs du système, pour en faire finalement une organisation où chaque partie prenante, et l'État en est une au nom des équilibres budgétaires, va défendre ses intérêts. Cette belle idée de Pierre Larocque et de ses successeurs est passée à la trappe. On l'a perdu parce qu'il y avait plein de gens qui n'avaient pas d'intérêt, je ne vais pas revenir là-dessus, à ce que les acteurs se réunissent, et pas forcément d'un côté ou de l'autre de l'échiquier politique, hein, clairement, mais on l'a perdu aussi parce que les contraintes économiques et l'utilitarisme budgétaire a fait que finalement, on a dit bah, la démocratie de tous ces gens qui discutent, ça ne sert à rien, c'est compliqué, ça prend du temps, ça discute de trucs dont on n'a pas envie, concentrons-nous sur les équilibres financiers. Quoi.
David Jayes.
Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le mutualisme n'a pas du tout disparu. Je vais prendre un exemple qui est moins connu. Dans le monde agricole, on a compris après 1945 qu'il fallait assurer des rendements pour nourrir la population française, pour être puissant à l'export. Et donc, on s'est inspiré du modèle américain sur la chimie, sur les tracteurs, sur la mécanisation. Simplement, il y a quelque chose en France à quoi on n'a pas voulu renoncer, c'est l'exploitation agricole familiale indépendante. Aux États-Unis, vous avez des exploitations de 8000 hectares. En France, ça n'existe pas. Et donc, on a mis en place des coopératives agricoles, c'est-à-dire que c'est une association libre de petits producteurs indépendants qui mutualisent une partie de leurs moyens pour gagner, pour conjuguer en quelque sorte, et c'est ça qui est important dans le mutualisme aussi, la puissance économique et l'efficacité, c'est pas honteux de parler d'efficacité économique, et en même temps, préserver un contrat social auquel nous sommes très attachés en France.
Il y a quand même quelque chose de particulier avec l'agriculture, parce qu'effectivement, c'est des coopérations, des coopératives, il y a aussi le mouvement agrariste, et nous avons consacré une émission en quête de politique que vous pouvez retrouver sur l'appli Radio France, l'agrarisme très conservateur, et le mutualisme ou la coopération, la coopérative, ça peut donner aussi la FNSEA aujourd'hui, qui n'est pas non plus un modèle de modernisme et de progressisme. Nicolas Théry, ce modèle aujourd'hui semble justement freiner l'évolution qu'il faudrait pour l'agriculture.
Mais je pense qu'il faut aussi être honnête et balayer devant notre porte. Là, on raconte aux auditeurs depuis quelques minutes à quel point le mutualisme, c'est formidable. Mais il faut dire aussi, comme tous les mouvements sociaux, qu'il peut générer de l'enfermement, du corporatisme, du conservatisme et la création d'une communauté que je qualifiais tout à l'heure de solidaire. Mais si elle est solidaire qu'avec elle-même et pas avec le reste de la société, elle ne fait pas le boulot que ses fondateurs attendaient. Or, on a bien aujourd'hui dans le système de la coopération cette tension. Et ce que j'ai vécu, qu'on évoque dans le livre avec Daniel Ball, c'est que le grand débat que nous avons eu post-Covid, c'est de dire, est-ce qu'une société mutuelle ou coopérative, elle ne doit être utile qu'à ses sociétaires, voire résister aux instructions de l'État, voire résister aux attentes de la société, ou au contraire, elle a une mission qui est de servir ses sociétaires, c'est son acte de naissance, mais aussi servir toute la société. Et
oui,
pour moi...
Est-ce que cet isme, c'est simplement une forme d'organisation ou c'est un projet de société ?
C'est un projet de société, mais beaucoup d'organisations mutualistes n'adhèrent pas à cette vision. Et donc, on va être très honnête. Il y a un débat aujourd'hui sur le rôle du mutualisme entre ceux qui en font un corporatisme et un outil finalement au service d'une communauté relativement fermée qui peut exister, vous l'avez cité, dans un certain nombre de coopératives agricoles ou dans un certain nombre de coopératives de distribution, ou est-ce que c'est une forme sociale qui finalement doit contribuer à l'utilité collective ? Et je pense que c'est cette tension-là que nous vivons aujourd'hui.
David Jayes.
Oui, j'aimerais approfondir ce point parce que je pense que le mutualisme se perd quand il oublie ses fondements philosophiques. C'est-à-dire qu'il peut, et c'est pour ça que je suis très attaché à cette expression de troisième voie. Il se perd quand il commence à ressembler à l'État et quand il devient administré par une bureaucratie un peu routinière et quand il devient accaparé par des petites coteries ou des petites baronnies qui se partagent les places, parce qu'il y a aussi des positions de pouvoir dans ces univers-là. Vous vous retrouvez à présider des caisses, des assurances, des banques qui sont parfois qui brassent des milliards d'euros. Il se perd aussi quand il cherche à simplement être dans la performance financière. Et vous avez parfois des groupes bancaires ou d'assurances qui sont tellement gros,
qui possèdent des parcs immobiliers énormes.
Et qui sont confrontés aux enjeux auxquels toutes les grandes banques capitalistes sont confrontées et qui peuvent être tentées de ne parler que le langage de la performance. Mais il se perd aussi quand il se contente d'un simple discours humanitaire où on va sauver la veuve et l'orphelin. Ce n'est pas le seul objet du mutualisme. L'objet du mutualisme, c'est aussi de faire de la... C'est de délivrer...
D'être efficace.
Conjointement de la performance économique et de la solidarité sociale. Et donc, il faut faire attention à tous ces écueils qui guettent à chaque instant le mutualisme.
Christian Hermide.
Je voulais juste apporter deux éclairages. Le mutualisme, c'est pas un idéal en soi, c'est pas la fin des tensions et c'est pas la chose qui va permettre de régler tous les problèmes. C'est au contraire, puisqu'on est dans un monde économique, de marché et tout ça, donc on est en permanence. Et même à l'intérieur de nos valeurs, on est en permanence confronté entre des tensions comme l'efficacité économique et le devoir de solidarité, des choses comme ça. Et c'est la mise en lumière par la démocratie de cette tension qui fait le mutualisme. Mais il n'y aura pas la même réponse au crédit mutuel que dans une grande mutuelle ou que dans ma petite mutuelle. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, pour rebondir sur ce que disait David, c'est que nous, on est par nature non lucratif. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'actionnaire à rémunérer. Ok, c'est vachement bien. Mais si on ne développe pas ce que j'appelle, moi, une non-lucrativité étendue, c'est-à-dire qu'on l'étend y compris aux rentes de situation, y compris aux objectifs qui consistent à dire « je veux être plus gros juste pour être plus gros », eh bien, finalement, on a raté ce que disait David, qui est « quel est notre objet social ?» Notre objet social, c'est pas d'être plus gros ou d'entretenir les rentes de situation des dirigeants.
C'était Curtis Harding, There She Goes, sur France Inter.
France Inter, en quête de politique. Thomas Legrand.
Nous sommes toujours avec Nicolas Terry, président des deux fondations du Crédit Mutuel, David Jays, essayiste, dirigeant d'un cabinet de conseil qui travaille dans le domaine du mutualisme, et Christian Hoyarbide, président de Mutlog.
Nous avons, entre ce qui est nationalisé et ce qui est purement privé, tout un secteur dans lequel il y a principalement les coopératives, les mutuelles et celles des associations qui rendent des services à d'autres qu'à leurs membres. Tout ce monde-là, dans tous ses aspects, a toujours été constamment créateur d'emplois. Moi, je suis attaché à ce secteur. C'est moi qui lui ai en effet donné le nom d'économie sociale. Et donc, je pensais qu'il fallait que les mutuelles placent leur argent plutôt dans les coopératives, en créant une solidarité autour de l'éthique du non-profit. mais ce sont des structures marchandes, comme on dit, qui vendent et qui font commerce tout à fait normalement. J'y crois beaucoup parce que c'est aussi un apprentissage de l'art de produire dans des conditions démocratiques. Et je pense que c'est une des formes d'avenir du monde.
Michel Rocard sur France Culture en 2000. Nicolas Terry, Michel Rocard, donc figure de ce qu'on appelle la deuxième gauche. Et je sais que vous en êtes proche, vous faites partie de cette mouvance. Michel Rocard dit que ce modèle est un avenir possible et souhaitable.
Pour moi, c'est une grande émotion, parce que je le dis, j'aimais beaucoup Michel Rocard. C'est avec lui que je suis rentré dans beaucoup d'engagements collectifs. Donc, c'est une grande émotion de l'entendre, et je trouve que c'est une grande actualité. Et notamment, cette idée de produire dans des conditions démocratiques, et finalement de réinterroger, ce que j'aime beaucoup avec Rocard, c'est cette façon qu'il avait de réinterroger le système dans lequel nous sommes, et auquel on a trop tendance à se résigner. Et là, la question qu'il pose, c'est de dire, mais finalement, il y a plein de gens qui ne se résignent pas et ils proposent de les unifier, de les aborder comme vous le faites, Thomas, dans votre émission, de manière globale en disant bah, ce sont des gens qui vont réinterroger le système, changer le capitalisme, le faire évoluer et il faut les mettre ensemble.
Alors vous avez été dans des cabinets de ministres de l'économie prestigieux et plutôt ce qu'on pourrait qualifier de sociolibéraux comme Dominique Strauss-Kahn par exemple. Est-ce que vous pensez que le modèle mutualiste peut être, dans ce monde très ouvert et ouvert à la concurrence sauvage, peut être efficace? Est-ce qu'on peut déborder les domaines classiques de la banque, de l'assurance, de l'économie sociale et solidaire? Est-ce que ça peut être un modèle plus large?
Alors, j'en suis convaincu. Peut-être une remarque, d'ailleurs, sur Dominique Strauss-Kahn. À l'époque, on était dans le foutoir du Crédit Lyonnais, de la privatisation imposée par la Commission de Bruxelles à toutes les banques et assurances. Et, heureux hasard, un peu organisé, les acheteurs ont tous été des mutuelles françaises. Et donc, on a contribué à une sorte de souveraineté. Et on a bien vu dans la crise du Covid à quel point le fait d'avoir des banques, des compagnies d'assurance détenues par des capitaux français pouvait être important. La deuxième chose, c'est que je pense que le mutualisme, il joue bien dès qu'il y a un enjeu de mise en commun et de long terme. Et aujourd'hui, face au capitalisme financiarisé de court terme, on voit bien qu'il y a des champs du côté de l'alimentation. On parle de sécurité sociale alimentaire, par exemple. Énormément du côté de la dépendance, énormément du côté du lien intergénérationnel, eh bien, ce sont des champs dans lesquels il y a un besoin de mutualité.
Et jamais l'industrie, la tech
Alors, la tech aussi, sachant que le mutualisme, il est plus transactionnel que d'accumulation de capital. Mais je pense, et on le voit d'ailleurs dans les prises de participation, on voit que les entreprises mutualistes soutiennent des industries, des sociétés de tech qui ont du sens. Et par exemple, le fonds Révolution environnementale et solidaire qui a été créé par le Crédit Mutuel, il a cette ambition-là, qui est de dire finalement, on oublie le profit financier et on se concentre sur la plus-value environnementale et solidaire. Et donc ça, c'est un nouveau champ, c'est finalement de permettre, y compris à des entreprises capitalistes, eh bien, d'avoir une autre perspective.
Christian Huyarbide.
Pour venir sur ce sujet de la tech, moi je pense que dans le livre que vous avez cité, les 20 propositions, j'avais coordonné les acteurs, il y en avait qui proposaient de créer des mutuelles de données. Une mutuelle de données, puisque les données c'est un enjeu économique aujourd'hui, créons des mutuelles de données. Alors, évidemment, il faut donner un contenu à ça, mais moi je propose...
Non mais l'innovation, la tech, être en tête de l'innovation de la tech, ça paraît-il, ça demande des dizaines de milliards.
Mais non,
de gros capitalistes avec beaucoup d'argent.
Pas des dizaines de milliards.
Des anti-mutualistes.
Moi je suis en train de travailler sur un projet au tout début, là, et je vais appeler tous les mutualistes qui m'entendent à nous rejoindre, autour de créer une IA mutualiste, ENUA qui parle ESS.
Économie sociale et solidaire.
Économie sociale et solidaire, qui parle de solidarité, de démocratie, qui se nourrit de ces données-là, celles de Léon Bourgeois et d'autres. Vous savez, pour faire un POC, comme on dit, une proof of concept de ça, vous savez quel est le budget que nous demandent deux chercheurs? 20 000 euros. Mais ils nous demandent 20 000 euros, ça c'est l'aspect financier, mais ils nous demandent surtout nos neurones en nous disant, mais c'est quoi les concepts, c'est quoi, comme ils disent, les graphes de relations entre les divers concepts que vous... Et donc, mettez votre cerveau, c'est notre cerveau qu'il faut qu'on mette à disposition de tous ces gens-là pour faire de la tech, pas pour investir dans la techno, mais pour parler d'autre chose que ceux qui ont les moyens d'investir dans la techno.
David Jayes, le mutualisme peut-il être un modèle d'avenir rentable?
D'abord, il est extrêmement efficace. Dans votre livre, vous dites, sur les 10 banques, les 10 plus grosses banques européennes, il y a 3 banques mutualistes qui sont des banques françaises. Hein, c'est Crédit Mutuel, BPCE et Crédit Agricole.
Dans le livre de Daniel Ball et de Nicolas Théry, pour une société mutuelle.
Le groupe Vive est le premier groupe français de protection sociale. Dans la grande distribution, vous voyez certains groupes qui sont en train de se casser la gueule. Pendant ce temps, Coopérative U, par exemple, présidée par Dominique Schelcher, a des problèmes de croissance. Hein, il gère des problèmes, Dominique me disait récemment, nous, on gère des problèmes de croissance. Donc, vous voyez que c'est un secteur qui est extrêmement dynamique. Sur les terrains d'avenir, je suis tout à fait d'accord, la dépendance. Vous voyez bien que quand on fait des EHPAD publics, on n'y arrive pas, on a une qualité de service qui n'est pas toujours au rendez-vous. Les groupes privés d'EHPAD, je ne vous fais pas un dessin, mais il s'est passé des choses compliquées ces dernières années. Les groupes cotés en bourse, avec des actionnaires, ouais, court-termistes,
etc. On a vu tous les excès et tous les drames.
Voilà, donc la dépendance et la petite enfance sont évidemment des champs qui sont extrêmement intéressants. Mais là où je vous rejoins, c'est que la tech, le web au départ, c'est une utopie mutualiste. La seule grande entreprise ou fondation, parce que ce n'est pas une entreprise du web, qui est aujourd'hui l'héritière de cette utopie initiale du web, c'est Wikipédia. C'est l'idée qu'on met en commun de la connaissance sur une plateforme partagée et qu'il y a des mécanismes de vérification.
Alors Wikipédia, ça marche, c'est vrai, mais ce n'est pas un modèle économique.
Mais c'est un immense succès.
C'est un immense succès, mais ça ne fait pas vivre des dizaines d'employés ou des centaines d'employés.
Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les fondations autour de Wikipédia, mais ce que je veux dire surtout, c'est que c'est un choix politique qui a été fait à un moment, qui est la privatisation intégrale. C'est-à-dire qu'il n'était pas écrit d'avance que les grandes entreprises de la tech deviendraient les pointes avancées du capitalisme financiarisé.
Et maintenant, de la réaction et du conservatisme.
Surtout quand on sait à quel point ces technologies-là sont des technologies collaboratives, décentralisées, qui justement cassent les verticalités qui sont celles de l'État ou du capitalisme traditionnel.
Alors prenons un cas politique, économique, financier qui nous intéresse en ce moment et depuis des années, qui nous plombe, c'est la question des retraites. Est-ce que les retraites, notre système de retraite, pourrait être réformé dans un sens mutualiste? Est-ce que ça serait une solution, Nicolas Théry?
Alors moi, je pense que oui, parce que la retraite, c'est un contrat social. Et c'est un contrat social entre générations, en gros, que donnent les actifs pour permettre aux anciens actifs de vivre et quel est le dosage de solidarité entre les générations.
Donc on sortirait du système de retraite par répartition tel qu'il est organisé? Et ça serait un système mutualiste. Il y a déjà les compléments de retraite mutualistes qui marchent. Est-ce qu'on pourrait généraliser ça?
Je dirais, et surtout, on sortirait la retraite du débat politique entre capitalisation, répartition. On reste bien sur la solidarité entre générations, mais on renvoie aux acteurs la responsabilité, donc aux partenaires sociaux, eh bien, de définir, redéfinir un contrat social autour de ça. Et on peut avoir autour des sociétés mutualistes qui, avec des mécanismes complémentaires, éventuellement de capitalisation collective, éventuellement de garantie individuelle et surtout d'inclusion des exclus, parce qu'on voit bien que le sujet de la retraite, c'est les carrières discontinues, c'est toujours un problème d'inclusion. Or, le mutualisme, c'est un projet politique d'inclusion. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un très bon exemple que vous nous soumettez là, eh bien, de retour d'une vision démocratique d'un sujet social.
Christian Huarbide.
Moi, je partage totalement la vision. Et je pense que cette idée d'aller au-devant des fragilités, au-devant des personnes qui passent sous les radars des processus, on va dire, économiques, voire technocratiques, parce que c'est quand même une des questions. Hein, quand on citait Pierre Larocque, s'il disait faut faire jouer les acteurs, c'est justement pour pas que ça passe en dessous des radars. En remettant, entre guillemets, du mutualisme, de la démocratie ou de la solidarité, entre des organismes qui sont au plus proche des gens et les vrais besoins, après le débat dont a parlé Nicolas Théry, que nous devons avoir collectivement, la question n'est pas capitalisation ou répartition, parce qu'à la fin du fin, sur le prélèvement sur l'économie, c'est toujours pareil. Mais c'est de se dire quelle société on veut et comment on fait inclusion pour tous ceux qui sont à côté. Et je pense que le mutualisme a sa carte à jouer compte tenu de ses valeurs.
David Jaïz, sur la retraite, est-ce que la retraite peut être mutualiste? Et les questions, alors ça ferait une retraite à 67 ans, à 65 ans, à 62 ans, à 60 ans, parce qu'évidemment, ça sera la question.
Plein accord aussi. Vous voyez, ce qui est un peu navrant dans le débat politique français, c'est qu'on a l'impression qu'on a le choix entre deux mauvais systèmes. C'est-à-dire soit un système ultra-étatiste, parce qu'aujourd'hui, vous prélevez environ 240 milliards de cotisations, mais vous liquidez, vous payez 380 milliards de pensions. Ça veut dire que le delta, hein, la différence de 140 milliards, elle est payée en réalité par l'impôt. Donc on a un système qui est de moins en moins un système de répartition, de solidarité basé sur les cotisations. Sauf que ça, personne n'a le courage de le dire. Et en même temps, on n'est pas condamné non plus à aller vers un système dans lequel on cotise à des fonds de pension un peu vautours qui vont chercher des super rendements dans des actions ou dans des investissements à l'étranger. On peut tout à fait imaginer un système dans lequel on a un socle de répartition avec des cotisations assises sur les revenus du travail. Et puis, on a des mutuelle avec de la capitalisation, mais de la capitalisation solidaire, qui investit dans des entreprises qui font du bien à l'environnement ou qui font du bien à la société. Et vous voyez, ce qui est dommage, et c'est pour ça que je reviens encore, pardon, à cette idée de troisième voie, c'est que cette option politique, aujourd'hui, elle ne trouve pas d'expression dans les partis politiques ou dans les organes traditionnels d'expression politique.
Vous dites aujourd'hui, mais depuis très longtemps, Michel Rocard, Jacques Delors, que vous avez cité, Nicolas Terry, ceux-là n'ont pas été en mesure de gagner des élections présidentielles.
Ils auraient presque pu, en tout cas, s'ils avaient voulu, s'ils avaient convoité le pouvoir suprême.
Ah bah
mais ce que ça révèle, c'est le manque aussi d'une...
Delors disait que s'il n'y va pas, c'est que pour être élu, il lui fallut qu'il dise des choses qui ne correspondaient pas à ce qu'il allait faire après.
Ce que ça révèle aussi, c'est le manque d'une véritable social-démocratie dans le champ d'expression politique français.
Et vous ne voyez pas quelqu'un qui pourrait incarner ça ? Ah, là, il y a un blanc, parce que je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a quelqu'un qui pourrait incarner ça, il s'appelle Laurent Berger, mais vous le connaissez tous personnellement, et je pense que vous avez tous essayé de lui demander s'il ne voulait pas y aller. Est-ce que, Nicolas Terry, est-ce que ça serait une solution ?
Alors, si je puis me permettre, Thomas, d'abord, c'est à lui qu'il faut poser la question et pas à moi. Moi, je
n'ai
jamais parlé à la place d'autres. Mais
il dit non.
Ce qui est intéressant, quand même, c'est les termes du débat. Et on voit bien qu'autour de la retraite, mais aussi autour de l'écologie, mais aussi autour de l'inclusion, il y a un débat social qui doit apparaître avant la présidentielle. Et au fond, c'est ça la vraie question. C'est qu'aujourd'hui, on s'est résigné à une économie financiarisée où on a des grands capitaines d'industrie qu'on met d'ailleurs probablement trop en valeur. Mais par exemple, poser la question du taux de rendement légitime d'une entreprise, quelle qu'elle soit, se dire, bah, pour par exemple faire des investissements écologiques, il ne faut pas des taux de rendement de prédation à 10, 15 ou 20% des fonds propres, parce que ces investissements écologiques qui sont de réparation, ils n'ont pas une rentabilité formidable. Pour la retraite, on est bien, on n'est pas dans le rendement, on est bien dans le service social. Et je pense que la question que vous posez finalement, elle n'est pas du qui, elle est du quoi. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, on arrive au terme d'une longue période où l'économie a été abandonnée par le politique, où finalement la question démocratique, y compris dans l'entreprise, a été abandonnée, où ces débats que vous avez rappelés ont été oubliés, et on a 2 ans pour qu'ils réapparaissent. Et s'ils réapparaissent, eh bien, il y a des personnalités, parce que c'est ça l'aspect formidable
j'en
de la démocratie.
J'en ai cité une, mais bon.
Il y en a probablement d'autres, mais il y a des personnalités qui pourront l'incarner.
Christian Herbit, vous pensez qu'il puisse y avoir un projet politique qui ait comme matrice le mutualisme ?
Je suis gêné pour répondre à la question, parce que ce n'est pas mon rôle de dirigeant mutualiste. Et moi, je me pose la question, mais qu'est-ce que je peux dire...
Votre rôle de citoyen, vous êtes devant un micro, voilà.
Mais qu'est-ce que je peux dire de là où je suis ? Et je peux, de là où je suis, faire réémerger les questions en débat dont vient de parler Nicolas Terry, en donnant l'exemple dans ma mutuelle qu'il est possible de les faire réémerger et que ça a du sens et que ça entraîne les gens. Et donc ma responsabilité dans ma petite mutuelle, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petite que le Crédit Mutuel, c'est de dire, je vais faire le colibri, c'est-à-dire je vais aller dire oui. Je prends ma part à la constitution de ce débat démocratique, à reposer ces questions, et d'un point de vue qui n'est pas nécessairement politique, mais d'un point de vue d'un acteur économique rentable, qui remporte des appels d'offres, et qui se bat dans un marché possible, pour montrer que, oui, le mutualisme incarne des voies possibles. Et bien je pense que si nous on montre ça, finalement on pèsera peut-être, et c'est l'objet du livre de Nicolas Terry, ou de celui que j'ai écrit, peut-être qu'on pèsera sur le débat politique et qu'on suscitera des vocations comme celle dont vous venez de parler, mais moi, je n'ai pas d'avis sur les personnes.
David Jaïs, vous êtes attaché, vous l'avez dit depuis le début de cette émission, à la troisième voie. La troisième voie, est-ce que vous pouvez nous la définir politiquement pour les 2 ans qui viennent et à quoi ça peut aboutir ?
C'est une voie alternative à la fois au tout État, qui dégénère souvent en bureaucratie, en inefficacité, en nomenclatura, et au tout marché, qui est court-termiste, qui est prédateur. Vous voyez, il y a ce très très bon livre de mon ami Giuliano D'Empoli là, qui vient de sortir, qui s'appelle « L'ère des prédateurs ». On voit qu'il y a un clivage politique planétaire qui est en train de se reconstituer entre ceux qui, finalement, les 1% ou même les 0,1% qui cherchent à tout s'accaparer, les richesses, les ressources naturelles.
Tous les pouvoirs.
Et on voit bien que cette technologie, elle donne un pouvoir absolument majeur. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner la technologie à ces gens-là, mais ça veut dire qu'il y a d'autres chemins politiques et économiques. Et moi, je me retrouve vraiment dans cette idée de démocratiser l'économie, mais aussi économiser la politique, c'est-à-dire sortir de ces discours très français, très incantatoires sur le yak à faucon ou sur les fins, sans jamais considérer les moyens pour les atteindre, ce qui d'ailleurs est un boulevard pour le capitalisme le plus débridé, puisqu'on sépare les moyens et les fins. Le
mutualisme... Vous voyez quelqu'un pour incarner cette troisième voie ?
J'ai quelques idées, mais je les garde pour moi.
Nicolas Terry ?
Non, je pense que face à l'ère des prédateurs, l'État a un vrai rôle de régulation. Le mutualisme peut éclairer, innover, mais par exemple, dire que les entreprises, notamment les grandes, doivent respecter les accords de Paris, et que c'est obligatoire, et que sinon on les taxe...
Sur le réchauffement,
la décarbonation et le dérèglement climatique. Dire, par exemple, qu'elles doivent consacrer un dividende sociétal à la lutte contre ce dérèglement climatique. Ou dire, ce qui est une proposition très concrète, dire les patrons, ils ne peuvent plus être rémunérés en variable ou en stock options, ou en actions, ils ne peuvent l'être comme un salarié, qu'avec une rémunération fixe, éventuellement très élevée, pour réaligner, j'allais dire, la communauté de travail avec des salariés, des clients, des actionnaires, et sans donner, j'allais dire, prééminence à l'un contre l'autre. Et je pense que la politique, elle peut aider les acteurs, finalement, à jouer tout leur rôle. Et on voit bien que là, on est dans une articulation. Et finalement, cette communauté solidaire qu'on évoquait au début, elle peut intégrer aussi l'État. Elle doit intégrer la personne, par exemple, protéger les données et ne pas les mettre en commun, les données de santé, les données de protection publique. Eh bien, c'est fondamental. Et vous voyez, on peut réarticuler un projet politique entre tous les acteurs.
Mais Nicolas Terry, quand on entend le mot mutualisme, on ne pense pas à la performance, on pense à une méthode plutôt sympathique, mais ce n'est pas performance, ça ne gagne pas. Est-ce que ça peut être efficace, et donc est-ce que on peut proposer ça comme alternative dans un monde si concurrentiel?
Moi j'en suis convaincu parce que c'est efficace, notamment parce que c'est robuste. Et je trouve qu'on devrait s'inspirer là-dessus du vivant, de l'analyse du vivant, de ce que nous disent les biologistes. Par exemple, notre corps humain, eh bien il est super performant avec une température de 40 degrés. Il n'y a pas un virus, pas un microbe qui résiste.
Mais ça ne peut pas durer.
Et donc, nous vivons avec une température de 37 degrés qui est robuste. Et la forêt, c'est pareil. Eh bien, c'est un système lent, efficace, robuste, qui nous procure d'immenses services. Et au fond, le mutualisme, eh bien, c'est une forme d'économie efficace, robuste, soucieuse des signaux faibles et des angles morts. Donc on doit s'inspirer du vivant, parce qu'au fond, l'économie, ça n'est que du vivant.
Et bien voilà. Le mutualisme, un vieux terme qu'il faut rénover et qui peut être utile pour l'avenir, pour les 2 ans qui viennent. Merci beaucoup. Enquête de politique est réalisée par Christophe Imbert. Archives sonores, Franck Olivard. À la technique ce soir, Maxime Goudard. À la programmation musicale, Thierry Dupin. Tous les numéros d'Enquête de politique sont disponibles en podcast sur l'appli Radio France. Et je vous retrouve dimanche, donc après le journal de 18h. Et il sera question d'anti-wokisme. D'ici là, n'oubliez pas, bien sûr, si vous ne vous intéressez pas à la politique, c'est la politique qui s'intéressera à vous.